Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. C'est Guillaume Narguet qui a le plaisir de vous présenter ce bulletin d'information. Nous commençons avec de la politique et la crise gouvernementale qui se poursuit. Mercredi, en fin d'après-midi, les présidents des trois partis qui forment la coalition se sont réunis sans qu'aucune information n'en soit encore ressortie. Plus généralement, cette semaine est annoncée comme décisive, tandis que les chrétiens-démocrates considèrent la démission du Premier ministre Stanislav Gross comme la meilleure solution pour sortir de l'impasse et que la coalition puisse continuer jusqu'à la fin de son mandat, en juin 2006. Une partie des sociaux-démocrates, dont Stanislav Gross est le leader, réclament, eux, le départ des trois ministres chrétiens-démocrates du cabinet. Par ailleurs, environ 200 personnes ont manifesté ce mercredi devant le siège du gouvernement pour réclamer le départ de son poste de Stanislav Gross. Rappelons que le Premier ministre est impliqué dans une affaire de financement douteux lors de l'achat de son appartement. Démographie. Selon les dernières données publiées ce mercredi par l'Institut tchèque des statistiques, le nombre d'étrangers vivant en République tchèque est en augmentation constante depuis le milieu des années 1990. Ce chiffre a été multiplié par 2,5 sur les 10 dernières années. Au 31 décembre 2004, un peu plus de 250 000 ressortissants étrangers résidaient légalement sur le territoire tchèque. Il s'agit donc d'un faible pourcentage par rapport à la population totale du pays, 10,2 millions d'habitants, et comparé à d'autres pays européens comme le Luxembourg ou la Suisse. Les Ukrainiens constituent 30% de la communauté étrangère, les Slovaques 18% et les Vietnamiens 13%. Les étrangers viennent en République tchèque essentiellement parce que la situation économique est moins bonne dans leur pays ou parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un emploi répondant à leurs qualifications, a expliqué une responsable de l'Institut tchèque des statistiques. Santé, le gouvernement a donné son feu vert pour la constitution de stocks à hauteur de près de 10 millions d'euros de Tamiflu, un médicament contre la grippe. En cas de pandémie, personnes âgées, enfants, diabète, cardiaque, patients chroniques et oncologiques, ainsi que les personnes nécessaires au bon fonctionnement du pays, comme le personnel médical, les policiers ou encore les pompiers, seraient les premiers bénéficiaires du traitement. Le médicament empêche la propagation du virus dans le corps et permet de limiter les effets de la maladie, voire de la prévenir. Signalons que seulement 7% de la population tchèque est vaccinée contre la grippe, contre 22% dans les autres pays de l'Union européenne. Météo, la journée de mercredi a été la plus froide depuis le début de l'année. Le record a été enregistré dans le massif de la Šumava en Bohême du Sud, où le thermomètre est descendu jusqu'à moins 31 degrés. Une légère remontée du mercure est attendue à l'approche de la fin de la semaine. Jeudi, le temps reste donc très sec et froid, mais le soleil brille sur l'ensemble du territoire. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre attention et je vous laisse tout de suite en compagnie d'Alexis Rosenzweig pour la suite de nos programmes.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Merci d'être à l'écoute de Radio Prague. Le gouvernement américain vient de rendre public son rapport sur les droits de l'homme dans le monde et 13 pages sont consacrées à la République tchèque. C'est à Strasbourg que pourrait peut-être à l'avenir se régler le problème des loyers réguliers en Tchéquie. Plusieurs plaintes ont été déposées par des propriétaires devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le salon de l'auto de Genève a ouvert ses portes et on a pu y découvrir en avant-première les nouveaux projets de Škoda et les premières petites voitures sorties de l'usine tchèque de Toyota et Peugeot Citroën. Tels sont les principaux thèmes de l'émission d'aujourd'hui. Dans notre page culturelle, avant de vous proposer la visite d'une nouvelle exposition consacrée aux Aztèques, nous vous présenterons un trio de rappeuses sénégalaises en tournée à Prague et dans le reste du pays. L'ensemble de la rédaction vous souhaite une très agréable réception. Globalement, la République tchèque respecte les droits de l'homme, mais elle a encore des lacunes à combler, par exemple au niveau de l'intégration des Roms, de la violence à l'encontre des femmes et des enfants, ou de la lutte contre la corruption. Le ministère américain des Affaires étrangères l'a constaté dans son rapport annuel sur l'observation des droits de l'homme dans le monde. Les détails avec Magdalena Segertova.
Les Roms tchèques, dont le nombre s'élèverait d'après les auteurs du rapport jusqu'à 175 000 personnes, seraient touchés plus que la population majoritaire par la pauvreté, le chômage, la discrimination et les maladies. En s'appuyant sur les études des organisations pour la protection des droits de l'homme, la diplomatie américaine parle même de l'analphabétisme des Roms, de leur accès difficile à l'éducation et par conséquent à l'emploi. Une question qui fait débat en ce moment dans le pays. Un groupe de 20 Roms, originaires de la Moravie du Nord, vient de porter plainte contre l'État tchèque devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, pour leur avoir carrément empêché de faire des études en les plaçant automatiquement dans un établissement spécial destiné aux enfants en difficulté scolaire. Une pratique malheureusement courante depuis le temps du communisme. Aujourd'hui encore, plus de 90% des élèves de ces écoles spéciales sont des Roms. Et puis, certaines familles n'enverraient même pas leurs enfants à l'école à cause d'une mauvaise situation sociale et par peur qu'ils soient victimes de la violence raciale. Bien couvertes à la critique, les institutions d'État axées sur les minorités ethniques et les droits de l'homme affirment que la situation s'améliore d'année en année, surtout grâce aux enseignants qui font des efforts pour intégrer les élèves roms à la société majoritaire. Enfin, les autorités américaines encouragent la République tchèque à combattre la traite des femmes et la prostitution forcée. Dans ce domaine aussi, les choses sont en train de bouger. Dans 2 mois, le gouvernement tchèque pourrait adopter une nouvelle loi visant à réglementer la prostitution.
La décision des propriétaires d'immeubles privés de porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg contre l'État tchèque, qui, en maintenant les lois irrégulées, nuit à leur intérêt, incitera les responsables politiques à précipiter la réforme des loyers jusqu'à maintenant ajournée sine die par tous les gouvernements précédents, de droite comme de gauche. Yarka Gisibelova.
Près de 800 000 ménages tchèques qui sont locataires d'appartements sous le régime d'un loyer régulé doivent compter sur une hausse plus élevée que le projet initial ne le prévoyait. À titre d'exemple, le locataire qui paye maintenant 2500 couronnes pour un appartement de 70 mètres carrés à Prague 4 dépenserait plus de 6 000 d'ici 5 ans. Le durcissement de la réforme est motivé par la crainte des plaintes que les propriétaires d'immeubles privés s'apprêtent à porter devant la Cour européenne de Strasbourg. Le cabinet veut éviter la situation dans laquelle s'est retrouvé le cabinet polonais après que la Cour européenne ait donné une suite favorable aux propriétaires d'immeubles polonais. Selon son verdict, la Pologne doit d'ici 6 mois modifier le système des loyers pour qu'il soit économique pour eux. Petr Doležal, chef de l'association civique des propriétaires d'immeubles de Brno, a dit à ce sujet à la radio tchèque. Je suis convaincu que l'État a eu suffisamment de temps pour résoudre la question des loyers régulés, mais au lieu de cela, il a ignoré les constats de la Cour constitutionnelle sur le caractère illégitime de la réglementation. Les propriétaires d'immeubles tchèques ont, paraît-il, attendu le cas de leurs collègues polonais, et puisque le verdict de la Cour européenne est positif, ils vont eux aussi porter plainte à Strasbourg. Les loyers en Tchéquie stagnent depuis 3 ans, car la Cour constitutionnelle a supprimé l'arrêté sur leur augmentation progressive. Le projet de loi sur les loyers du ministre de l'Aménagement du territoire Jiří Paroubek prévoit que les loyers seraient revus à la hausse dans le courant des 5 prochaines années, en sorte que leur montant s'arrête à l'équivalent de 3% du loyer au prix du marché. Son adjoint Ivan Pchikril propose que cet accroissement soit plus important, entre 6 et 12% suivant les localités. Aux couches socialement plus faibles, la hausse serait compensée par l'État. Le prix de l'abolition de la régulation est évalué à 2 milliards de couronnes par an.
La République tchèque devient une grande puissance dans la production des automobiles. Au Salon de Genève, plusieurs nouveaux modèles sont de production tchèque ou fabriqués en Tchéquie. Alain Slivinski.
Le Salon de l'Auto de Genève est un peu la Mecque des automobilistes, car c'est l'un des plus grands salons du monde. Cette année, il fête son 100e anniversaire. La Tchéquie est très présente à ce salon. Tout d'abord, il y a la marque Škoda, qui fait partie du consortium Volkswagen. Elle ne présente pas de nouveaux modèles de son Octavia ou de sa Fabia. Par contre, Škoda a attiré l'attention des journalistes et des spécialistes avec un projet de petit tout-terrain qui porte un joli nom, Yeti. De couleur bleu métallisé avec un toit blanc, il était présenté ce mardi par le chef du design de Škoda, Thomas Higenrath. D'après lui, le modèle Yeti est un véhicule qui n'est pas destiné aux terrains les plus difficiles, mais surtout aux routes de campagne et chemins forestiers, mais aussi à la circulation en ville. Une petite voiture bien sympathique, mais qui ne sera pas fabriquée sous la forme présentée. Du moins, c'est ce qu'affirme le directeur général de Škoda, Detlef Wittig. Pour lui, la Yeti doit symboliser les nouvelles tâches de la plus grosse entreprise tchèque. Construire des automobiles pratiques et à des prix abordables, mais qui ne passent pas de mode trop vite. Une autre nouveauté de Škoda est la Roomster. À Genève, l'usine présente sa 4e étude. C'est un gros break, une combinaison de la familiale et du combi. Elle présente des lignes assez agressives et voudrait, d'après les constructeurs, toucher les pères de famille nombreuses, mais aussi ceux qui aiment l'espace pour faire de longues randonnées ou de longs voyages de vacances. À la différence de la Yeti, la Roomster sera fabriquée. Dans un an, elle devrait sortir des lignes de production de la nouvelle usine de Škoda, élargie et modernisée à ses fins, et qui se trouve à Kvasini. L'usine mère étant à Mladá Boleslav, à une 50aine de kilomètres de Prague. À Genève, première des 3 petites voitures aussi fabriquées par le consortium Toyota Peugeot Citroën, dans sa nouvelle usine de Colline, située elle aussi en Bonne Centrale. Les premières voitures de série viennent de sortir de l'usine. Une Citroën C1 rouge, une Peugeot 107 grise métallisée et une Toyota Aygo jaune sont très remarquées au salon de Genève. Les clients de ces petites, qui seront vendues à un prix inférieur à 8 500 € sur le marché de l'Europe de l'Ouest, les jeunes, les nouveaux titulaires du permis de conduire, ceux qui ne sont pas obligés de transporter une famille, veulent être in. Grâce à Škoda et le consortium Toyota Peugeot Citroën, la Tchéquie devient le premier producteur mondial d'automobiles par rapport au nombre de ses habitants. Plus de 700 000 unités par an.
Le samedi 12 mars aura lieu au Théâtre National de Prague la première mondiale de l'opéra Montezuma. Le projet vient d'être présenté à la presse par les institutions qui participent à cette grande coproduction internationale, le Théâtre National, l'Ambassade du Mexique, l'Institut italien et le Musée national de Prague, Václav Richter.
Le choc des civilisations, la culture des Aztèques et la conquête du Mexique par l'armée de Hernán Cortés. Tel est le sujet de l'opéra Montezuma écrit sur commande pour le Théâtre National de Prague par le compositeur italien Lorenzo Ferrero. C'est la 10e œuvre lyrique de cet auteur qui considère l'opéra comme la meilleure forme du théâtre, un genre qui a un grand potentiel pour s'adresser aux spectateurs contemporains. L'opéra est conçu comme une vision onirique d'une femme de notre époque, Marina, qui plonge en rêve au XVIe siècle, à l'époque de la conquête du Mexique par l'armée espagnole et de la chute du souverain des Aztèques, Montezuma. Pour caractériser ces personnages, le compositeur utilise de divers genres musicaux, Lorenzo Ferrero.
For instance, we have this lady. This lady is a contemporary lady.
D'abord, il y a une femme de notre époque qui est une chanteuse de rock et de pop, ce n'est pas du tout une cantatrice d'opéra. Elle dispose d'une forme de voix que nous pouvons entendre aujourd'hui presque partout. Par contre, les personnages historiques, ceux de Montezuma et de Cortés, sont des personnages d'opéra, ce qui ne veut pas dire seulement qu'ils chantent comme à l'opéra, mais qu'ils s'expriment par des airs, des scènes et des formes musicales qui sont beaucoup plus près de l'opéra traditionnel. Tout est lié par l'utilisation abondante de la musique symphonique, qui occupe ici un espace beaucoup plus grand qu'il est habituel à l'opéra.
Bien que l'action de ce drame lyrique ne respecte pas exactement les données historiques, le livret est basé sur des citations de documents et d'œuvres littéraires d'époque. Les personnages s'expriment dans leur langue maternelle et chantent donc en espagnol, en anglais et dans la langue des Aztèques. Tout le spectacle est plein de mouvements. Nicolas Mouni, metteur en scène de l'opéra.
So in our production, what we have strived to attain is...
Dans notre production, on trouve beaucoup de mouvements et de rapides changements de tableau, ce qui rappelle le cinéma. Je pense que Lorenzo Ferrero a admirablement exprimé par sa musique cette sensation onirique du temps qui passe, de la fluidité des événements. D'une part, notre production est donc très simple, sinon minimaliste. D'autre part, elle est aussi très complexe dans sa façon d'exprimer la succession des événements.
C'est très simple, en termes de minimalistique, mais c'est aussi très complexe dans la façon dont elle bouge.
À la même occasion, le musée Napelsteg de Prague présente une petite exposition d'objets illustrant la civilisation, la culture et la religion des Aztèques.
This is dedicated to the hip-hop dreamers.
Alif, c'est le nom d'un groupe de rap sénégalais formé par 3 filles. Leur dernier album, intitulé Dakane Rap, est sorti l'année dernière et elles viennent ces jours-ci le présenter au public tchèque. Radio Prague est allée à leur rencontre quelques jours avant leur tournée en République tchèque, un pays qu'elles connaissent déjà et apprécient tout particulièrement malgré le froid.
Moi c'est Myriam, elle c'est...
Moi c'est Oumi.
Et moi c'est Naya.
On chante en wolof, français et anglais aussi.
Il y a du poulard aussi. Oui, poulard.
C'est une langue du Sénégal, quoi. C'est une ethnie du Sénégal qui parle ça. C'est des tout-couleurs, donc qui parlent poulard. Moi, je suis tout-couleur.
Moi, je suis nar.
La troisième, elle est wolof. C'est la langue dominante au Sénégal. On fait du hip-hop. Le hip-hop, c'est très large. On fait du rap, du reggae, du raga, du R&B, dancehall carrément, quoi. Parce qu'en fait, ces mouches-là viennent de nous piquer parce que le dancehall, maintenant, ça marche très fort. Et puis, nous, on adore ça, quoi. Donc, c'est le raga, le rap et le reggae, quoi. L'ambiance est chaude ici. On a fait des concerts super à Abaton, à Brno aussi. Donc, c'était nos meilleurs concerts durant les tournées passées. Donc, pourquoi pas revenir, quoi. La population est très sympa et on adore ça.
Oui, c'est bon. Et il y a des gens qui sont bien ici. Hein. Tout le monde est bien ici, gentil. Et c'est un beau pays, quoi.
J'ai entendu une question d'animateur de la radio privée qui vous interviewe juste avant. Il se demande comment est l'Afrique. Est-ce qu'il y a des cases partout? Ça vous étonne, des questions comme ça?
Bien sûr, ça nous étonne parce qu'en fait, la plupart des Européens pensent comme ça, quoi. Parce que c'est d'habitude les documentaires qu'ils regardent. Donc, c'est une vision assez négative de l'Afrique qui se développe petit à petit. On n'a pas un développement très, très avancé, mais on est un peu modernisé quand même. Il y a l'électricité, il y a l'eau.
Est-ce que c'est un de vos buts de faire connaître mieux l'Afrique et votre pays, le Sénégal?
Bien sûr, absolument, bien sûr. Parce qu'en fait, ils doivent penser différemment. Parce qu'ils voient que nous faisons du rap, le rap qui vient des États-Unis, ils doivent savoir que c'est un peu développé, quoi. Parce que sinon, comment est-ce qu'on va faire pour connaître le rap? C'est assez difficile, ça.
Le Joula, c'est le nom de ce ferry qui avait chaviré il y a 2 ans près des côtes sénégalaises, un drame dans lequel plus de 1000 personnes ont perdu la vie. Et c'est avec cette chanson tirée du dernier album d'Alif et dédiée aux victimes du Joula que s'achève cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez David Allon pour les chapitres de l'histoire.
Elle peut y rassurer, mon mère dit lol, qu'elle soit au courant. Ouais, y'a mon père, y'a la gueule, pas de bille sous nos nids. J'ai de colère. Elle est pour la raison, mon maître l'or, qu'un sort con. Ouais, y'a mon père, y'a la dogole, Gucci amour, famille. Am Gucci am di jam, Gucci des, j'y de colère. Elle est pour la raison, mon mère dit l'or, qu'un sort con.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
Lors du sommet américano-russe tenu à Bratislava le 25 février dernier, le président russe Vladimir Poutine mettait en avant l'amitié entre Moscou et ses anciens satellites d'Europe de l'Est. Bien avant la période soviétique, les relations entre la Bohême-Moravie et la Russie ont pourtant été placées plus souvent sous le signe de l'antagonisme que de l'attirance. avec, à la clé, une utopie, le panslavisme. La russophilie en Bohême-Moravie remonte à la fin du XVIIIe siècle et obéit au moins autant au cœur qu'à des considérations pratiques. Jusqu'en 1918, le courant panslaviste en terre tchèque peut en effet se lire comme une stratégie de contrepoids culturel face à l'influence allemande. Certains tchèques cultivent la solidarité slave pour rompre l'isolement et bénéficier du sentiment d'appartenir à une grande famille. Tout droit issu du romantisme, le courant slavophile entre en concordance au début du XIXe siècle avec le développement de l'éveil national. L'un de ses premiers théoriciens est un pasteur slovaque, Jan Kolar, qui formule l'idée d'une solidarité liant tous les Slaves sans exception, catholiques ou orthodoxes. Ainsi naît le mythe égalitariste du monde slave, dont le symbole, le tilleul, évoque la douceur slave, opposée volontiers à la dureté allemande. La première génération de patriotes tchèques, Josef Jungmann, Jan Kolar, Antonin Marek, franchissent facilement la frontière entre slavophilie et russophilie, et ce jusqu'à en perdre tout sens critique face à la nature du régime tsariste. De nombreuses voix parmi l'intelligentsia se sont pourtant élevées pour dénoncer l'illusion panslaviste. Ainsi, le journaliste Karel Havlicek-Borowski rejette la conception irréaliste d'une vaste fédération slave au nom d'une solidarité naturelle. L'exemple de la Pologne, partagée entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, ainsi que la brutale répression de l'insurrection polonaise de 1830 par le tsar, ne laisse guère d'illusions à ce sujet. Face au doute, la slavophilie va s'orienter vers l'austroslavisme, qui s'adresse aux seuls slaves de la monarchie autrichienne, tchèque, slovaque, croate, slovène. Le comte Thun en rédige le programme en 1842 et inaugure ainsi un courant slavophile et non russophile. Écoutons František Palacký, père de l'éveil national. La possibilité d'une monarchie russe universelle n'a pas d'adversaire plus résolu que moi, non parce qu'elle serait russe, mais parce qu'elle serait universelle. Palacký croit à une force slave qui s'épanouirait à l'intérieur de la monarchie autrichienne. En juin 1848, l'austroslavisme devient visible avec le congrès slave qui se tient sur l'île de Jofine à Prague. L'année 1905 marque un tournant dans la représentation tchéco-russe. La révolution qui secoue la Russie laisse présager l'instauration de la démocratie. Le caractère autocratique du régime tsariste, qui avait tenu à distance la plupart des intellectuels tchèques, n'est plus un obstacle vers un rapprochement entre les deux nations. Le congrès slave de 1908, qui réunit désormais non plus seulement les slaves de la monarchie, mais aussi des Russes, symbolise le nouveau cours. Dans son discours, l'avocat tchèque Karel Kramář appellent à une vaste réconciliation entre nations slaves. Le tsar Nicolas II, qui n'est pas présent au congrès, ne cherche quant à lui qu'un soutien sans faille à sa politique. Il entrera dans une fureur noire à la lecture du discours de Kramář, trop modéré à ses yeux. L'illusion panslaviste a vécu, et le nouveau congrès, qui se tient en 1910, sera le dernier. Dans la lignée de Borowski, de nombreux intellectuels tchèques ne cessent d'ailleurs de marteler leur opposition à l'idée d'une fédération slave dominée par Moscou. Ainsi Masaryk, bien conscient du fossé politique et économique séparant la Russie de l'Europe. Minoritaires et réunis autour de Kramář, les russophiles tchèques reviennent en 1915 sur le devant de la scène, alors que les armées russes débutent la guerre avec brio. La révolution bolchevique de 1917, suivie de l'armistice, ruine ses maigres espoirs. Elle donne également naissance à un voisin turbulent, voire dangereux pour la démocratie tchécoslovaque naissante. Formés sur différents fronts durant la guerre, les légions tchécoslovaques démontrent leur efficacité sur le front russe, où elles représentent un contingent de 55 000 hommes. Après la guerre, elles interviennent en Sibérie contre l'armée rouge, entrant de plein pied dans la guerre civile russe. À l'automne 1919, Prague décide leur rapatriement depuis Vladivostok. L'orientation démocratique de la Tchécoslovaquie rompt toute ambiguïté sur son attitude face à la dictature soviétique. Dans les années 20, Prague est avec Berlin et Paris l'un des trois centres d'émigration des Russes blancs auxquels l'État fournit une aide financière. Les relations complexes entre Tchèques et Russes montrent que l'amitié entre la Russie et ses anciens satellites, évoqués par Poutine, n'est pas une donnée évidente, et ce même avant la période communiste. La russophilie est restée un courant minoritaire en Bohême-Moravie et ressurgit sporadiquement à la faveur de crises. En 1948, l'idée panslaviste sera mise une dernière fois en avant par la propagande communiste pour retomber ensuite en sourdine. Depuis longtemps, de toute façon, les Tchèques, comme leurs voisins d'ailleurs, n'y croyaient plus.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 116.